observateurs de la théorie du genre, ils sont conscients de cet oubli. Cet oubli, est-ce qu'il est fait vraiment consciemment par certains
ou... De quel oubli?
C'est cet oubli du point de départ où on voulait observer ces pathologies. Mmh.
Non, non, il n'y a pas d'oubli, il y a juste, justement, puisque c'est à partir d'un vécu en colère, si je peux dire, justement la colère se porte sur la dénomination de ce que je vis comme étant une pathologie. En fait, c'est ça. Pour développer un peu cette idée, qui est assez importante, pour comprendre la psychologie sous-jacente, un des grands vecteur de développement de la théorie du genre, ça a été l'épidémie du sida, notamment aux États-Unis. Et le grand livre qui a que les militants gays contre le sida se sont appropriés, c'est un livre de Michel Foucault dont on va travailler des extraits demain, qui s'appelle « L'histoire de la sexualité ». Et je dis ça parce que un des enjeux de ce texte, un des extraits qu'on lira demain, c'est une vision nouvelle du pouvoir. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, dans l'expérience du sida, il y a eu notamment des militants d'ACT UP, hein, qui étaient notamment à New York, qui ont été le fer de lance d'une réaffirmation politique et intellectuelle de l'homosexualité. Il y a eu un refus d'être réduit à des objets pathologiques par les cabinets pharmaceutiques, par les médecins, par les politiques, etc. Et il y a une sorte de, d'articulation, de rencontre entre la médicalisation du sida et la médicalisation de l'homosexualité. Et il y a une sorte de flash. Où il y a eu une sorte de volonté de refuser ces deux logiques. C'est-à-dire que un des enjeux d'ACT UP, c'était justement que les malades du sida se réapproprient eux-mêmes leur vécu et arrêtent d'être réduits à des objets et à subir les choses, et soient vraiment acteurs de la lutte contre le sida. Bon. Et à travers ça, il y a eu une sorte de réappropriation de tout un travail intellectuel qui a été fait notamment par Foucault, justement sur l'homosexualité. Et donc c'est comme si l'épidémie du sida avait comme réactivé une sorte de refus d'être réduit à une vision pathologique. Donc, pour répondre à ta question, il y a effectivement au début une conscience historique que le point de départ est dans la pathologie, mais justement une dénonciation de cette réduction pathologique. Et du coup, de dire, ben non, ça a été effectivement pathologisé, mais c'est les cadres à partir duquel on voit ça comme une pathologie qui doivent être contestés. Donc il faut remonter en amont, il faut remonter dans les présupposés à partir desquels on nomme ça une pathologie. Et donc, il y a un travail de retournement. Or, à partir du moment où on fait ça, évidemment, on refuse le diagnostic de pathologie, bien sûr, mais on refuse surtout tout ce qui va avec, tout ce sur quoi s'appuyer ce diagnostic de pathologie. Et c'est justement ce que la théorie du genre essaie d'élaborer. Et du coup, alors, c'est clair ou pas ce que je... Et du coup, alors, maintenant je viens à l'autre point que je voulais développer, sur le concept d'idéologie, que j'utilise un peu depuis ce matin, je voudrais préciser un peu maintenant ce terme. L'idéologie, c'est un terme que l'on trouve chez Marx. C'est Marx qui, un des premiers, enfin, en tout cas dans l'utilisation qu'on en a depuis ce matin, qui a théorisé ce terme d'idéologie. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie chez Marx ? L'idéologie chez Marx, on pourrait dire premier passage, que c'est un discours par lequel la classe dominante justifie sa domination. Donc, dans la perspective de Marx, l'idéologie, c'est une doctrine. Mais attention, une doctrine, ce n'est pas simplement des textes écrits dans des bouquins. C'est une doctrine qui s'incarne dans des mentalités, dans des lois, dans des systèmes institutionnels, etc. C'est donc une doctrine qui a pour fonction, je répète, de justifier la domination d'une classe sur une autre. Dans le cas de Marx, évidemment, hein, la domination de la classe bourgeoise sur le prolétariat. Comment justifier la domination ? Ben, en disant que cette domination est naturelle, qu'elle est dans l'ordre des choses, que ceux qui dominent ne dominent pas parce qu'ils exercent une puissance arbitraire, mais ils dominent parce qu'il est naturel, légitime, bon de dominer, qu'ils dominent, et c'est bon notamment pour ceux qui sont dominés. Donc, dans ce discours que Marx stigmatise comme idéologique, il y a une sorte de tour de passe-passe. Donc voyez bien, je précise, le mot idéologie chez Marx, il est toujours péjoratif. Hein. L'idéologie chez Marx, c'est l'objet d'une dénonciation. Parce qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire courant, le mot idéologique peut être utilisé de manière neutre. On va dire, je ne sais pas, l'idéologie de tel parti politique, l'idéologie de ceci. Bon. Or, si on prend idéologie comme synonyme de doctrine, ça devient en lui-même un terme un peu passe-partout. Dans le vocabulaire de Marx, qu'on va retrouver hein, dans les textes qu'on va travailler, et d'ailleurs déjà dans l'acception que j'ai utilisée depuis ce matin, dans le vocabulaire de Marx, l'idéologie est donc ce qu'il s'agit de dénoncer. Donc, quand Marx parle de l'idéologie, c'est pour dévoiler une stratégie d'auto-justification. Dévoiler une stratégie d'auto-justification. Et comment justifier la domination, je répète, en invoquant un ordre naturel qui ne dépend pas des libertés individuelles, qui ne dépend pas de l'être humain, qui dépend de l'ordre naturel des choses. Alors là, vous voyez bien à quel point le concept d'idéologie va pouvoir être utilisé dans la théorie du genre. Comment vous n'avez qu'à remplacer le capitalisme par l'hétérosexisme, et vous avez compris en partie, pas la totalité, sinon la session serait finie. Enfin, vous me diriez, tant mieux, mais bon, c'est pas fini. Mais il suffit de remplacer donc capitalisme par hétérosexisme. Et là, vous avez un des aspects très importants du processus. C'est-à-dire que l'idéologie, elle est d'autant plus puissante qu'elle est inconsciente. Une idéologie, elle fonctionne d'autant mieux, non seulement qu'elle n'est pas perçue comme idéologie, bon, ça va de soi, mais qu'elle n'est même pas qu'elle n'est même pas soutenue consciemment par ceux qui la supportent et qui la font vivre. C'est-à-dire que un idéologue sera d'autant plus pertinent qu'il ignore totalement son statut idéologique. Vous voyez ? Parce que si l'idéologue, il sait très bien qu'il est en train de refourguer un système d'auto-justification qui est quand même assez mal foutu, bah évidemment, il y a un moment où il va pas être très convaincant, quoi. C'est comme un mauvais commerçant qui essaye de revendre sa camelote. Hein. S'il est persuadé vraiment que c'est une camelote, il y a un moment où il va faire un lapsus, bref, il va vous faire comprendre qu'il essaye de vous refourguer sa camelote que personne n'a voulu. Donc le bon commercial, c'est celui qui est absolument persuadé que sa camelote est un produit remarquable. D'accord ? Donc, ben là, c'est la même chose. L'idéologie bourgeoise pour Marx, elle est d'autant plus efficace qu'elle agit à l'insu de ceux qui la font vivre, de ceux qui la transmettent. Donc l'idéologie, ça ressemble étrangement à la croyance. Vous avez remarqué. Et la croyance, je vous rappelle que ça veut dire tenir pour vrai. Quand je crois quelque chose, je tiens pour vrai. Je tiens pour objectif ce à quoi j'adhère. Croyance religieuse ou pas, d'ailleurs. Là, c'est pas... Bon. Et donc, dans la perspective de Marx, l'idéologie, il s'agit de la dénoncer, mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit, Marx ne va pouvoir dénoncer l'idéologie que par un décryptage de la réalité sociale.